Bonsoir les amis des livres et des apéros. L'humiliation est insupportable, on la redoute. Qu'elle relève du camouflet ou du déclassement social, elle doit être absolument évitée. Il faut être fort, avoir de la répartie, le dernier mot. Ne surtout pas se rabaisser, rien ne vaut l'honneur. Bon, c'est terminé là, tacle la littérature. Mais c'est pas vrai, mais oh, c'est sûr que le cerveau de Dupont-Monod, il humiliera personne. Regardez du côté des livres. La littérature n'a que faire des conquérants. Ce sont les personnages humiliés qui sont les plus beaux. La petite fadette de George Sand, laide, malpropre, paria, ça ne l'empêche pas de triompher. Et Boule de Suif de Maupassant, prostituée héroïque avec qui personne ne veut partager son repas. Mais qu'importe, elle se tient droite, maintenue par l'honneur de l'humilié. Car oui, humilié ne signifie pas indigne. Et ça, Marivaux et Tolstoï l'avaient bien compris. Dans Maître et Serviteur, comme dans L'île aux esclaves, le basculement des rôles entre humilié et humiliant est révélateur. Et si vous en doutez encore, lisez L'humiliation, le Moyen-Âge et nous de Michel Zinc, c'est paru chez Albin Michel. Pendant longtemps, le mot « respect » a tenu la vedette. On le mettait à toutes les sauces. Or, depuis 4 ou 5 ans, c'est l'humiliation qui prend sa revanche. On ne compte plus les titres de presse, d'internet, qui disent qu'une personnalité politique ou qu'un chanteur a été taclé. Et un champion sportif ne perd plus un match, d'ailleurs, on dit qu'il a été humilié. Alors, Michel Zinc reprend cette notion d'humiliation. Il écrit « Ne lésinons pas, je vais remonter jusqu'au Moyen-Âge ». Car le Moyen-Âge est traversé par une tension très forte entre l'idéal chevaleresque, qui prône l'honneur, la démonstration de force, et son contraire, l'idéal chrétien, qui prône l'humilité, la faiblesse, heureux les humiliés. La radiographie de cette tension s'appuie sur des textes littéraires, de la chanson de Roland à Tristan et Iseut, sur la fête des fous, sur l'amour courtois. Passionnante balade parmi les ABC qui en dit long sur notre façon de voir la compassion, la maladie, la folie ou la virilité. Alors, le temps d'un apéro, nous partagerons un amuse-bouche avec Michel Zinc, un nom prédestiné pour l'apéro. Il fallait la faire, il nous livrera ses secrets d'écriture. Sans honte, ce sera le procès-verbal, nous offrira ses vices culturels aussi cachés qu'une défaite dans le cœur d'un guerrier. Ce sera les inavouables avant qu'un libraire, gardien de nos déshonneurs, ne vienne adouber les humbles comme unique conquérant.
France Inter, l'amuse-bouche, Clara Dupont-Monod.
Bonsoir Michel Zinc.
Bonsoir.
Vous commencez votre ouvrage par un souvenir personnel, ce qui n'est pas très fréquent pour un historien. Vous avez une dizaine d'années, vous jouez avec le fils du forgeron, c'est bien ça?
Oui, du maréchal Ferrand, il y avait des chevaux encore à l'époque.
Et qu'est-ce qui se passe?
Écoutez, j'aimais beaucoup ce garçon. Il avait toutes sortes de qualités que je n'avais pas, et en particulier des qualités morales. Et son père était un homme absolument charmant, un excellent forgeron, un excellent maréchal Ferrand. Il avait tendance à boire un peu, ce qui se faisait beaucoup à la campagne à cette époque. Et un jour, j'ai eu devant son fils un mot, une phrase sentencieuse, compassionnelle aussi, qui avait l'air gentille sur le fait que c'était, ça ne visait pas son père directement, mais que d'une façon générale, c'était ennuyeux de boire trop, etc. Et justement, parce que ça avait l'air gentil, c'était atroce. Il ne pouvait rien répondre. Il a bien dû penser que je pensais à son père. C'est pas qu'il buvait, il roulait pas sous la table. Enfin, il buvait trop. Et ça avait l'air gentil, compréhensif.
Et c'était pire que tout, du
c'était
coup.
C'était pire que tout. C'était le pire. Il pouvait pas se défendre. Il
mais vous vouliez montrer quoi avec cette anecdote personnelle? En fait, que l'humiliation vaut toutes les douleurs.
Exactement. Que l'humiliation est une douleur insupportable, c'est du moins comme cela que je la ressens, et que du point de vue de celui qui l'inflige, c'est quelque chose d'impardonnable. Parce que on peut être en colère, on peut taper sur un autre, on peut tuer si on est exaspéré, si on est menacé, si on est humilié. Ça. Mais cette sorte de petit calcul de l'humiliation qui atteint là où ça fait mal, ce petit geste, ce petit mot qui sont si petits que l'autre ne peut même pas les relever, il aurait l'air idiot. Eh bien, ça, c'est méchant.
Alors, au cours de l'histoire, certaines humiliations n'ont pas été si minuscules que ça. Certaines sont publiques, voilà. Il y en a beaucoup qui sont restées célèbres parce que très ritualisées. Et je pense notamment au principe de la dégradation.
Le conseil de guerre a condamné le nommé Dreyfus Alfred à la déportation à perpétuité dans une enceinte fortifiée hors du territoire continental de la France et à la dégradation militaire.
Alfred Dreyfus, vous n'êtes plus digne de porter les armes de la France. Au nom du peuple français, Nous vous dégradons.
Extrait de l'affaire Dreyfus d'Yves Boisset en 1994. Michel Zinc, est-ce qu'au Moyen-Âge, l'humiliation est aussi cérémoniale?
Elle peut l'être, bien sûr. Alors, pour nous, l'affaire Dreyfus est encore proche. Effectivement, quand nous pensons à l'humiliation comme rite d'exclusion sociale, nous pensons à l'affaire Dreyfus, nous pensons à l'image du petit journal, on voit le cuirassier casser le sabre de Dreyfus sur son genou, et c'est quelque chose d'insupportable. Je défie n'importe qui de garder son calme en voyant à cette image, en y pensant simplement. Au Moyen-Âge, oui, bien sûr, beaucoup de châtiments s'accompagnent de l'humiliation. Alors, il y a le pilori, l'exhibition, qui est une humiliation pure et simple. Il y a, je suis sûr, ma chère Clara Dupont-Mono, que ça vous plaira beaucoup, la course des adultères dans les coutumes d'Agen et de Toulouse, avec des illustrations dans ces manuscrits juridiques qu'on a dessinés.
C'est là où il y a les testicules.
Voilà, on prenait, quand un couple était pris sur le fait, on les faisait défiler dans les rues avec un monsieur qui jouait de la trompette devant, tout nu, et le monsieur était attaché par là où vous pensez, et relié à la dame. Alors là, on ne voit pas très bien sur l'image comment ça pourrait être relié, mais enfin, ils étaient attachés l'un à l'autre. Et ils défilaient comme ça. Donc c'était un pur rituel d'humiliation. Il y a le fait que le condamné est, dit-on, nu en sa chemise. Quand on était vêtu que de sa chemise, on était considéré comme nu au Moyen-Âge. En chemise et à corde au cou, comme les bourgeois de Calais, où là, c'était une humiliation purement ritualisée, qui n'était même pas vraiment humiliante. Ça faisait partie de la diplomatie, comme l'a bien montré Jean-Marie Meuglin. Il y avait le fait que, en France, il était honorable d'être décapité, mais infamant d'être pendu. Qu'en Angleterre, on pendait tout le monde, mais qu'on pouvait être pendu de façon infamante ou non infamante. Ce qui montre que l'humiliation est pire que la souffrance et même que la mort, puisque le fait de pouvoir choisir sa mort, par exemple, c'est une circonstance adoucissante de la mise à mort. Mais cette humiliation judiciaire existe encore. Conduire l'inculpé dans le cabinet du juge avec les menottes, même à un endroit où il ne risque pas de se sauver, c'est une humiliation judiciaire.
Vous l'avez dit, Michel Zinc, le Moyen-Âge est traversé par une tension entre deux idéaux. Alors il y a d'abord, d'un côté, cet idéal-là.
Sois sans peur, face à tes ennemis. Sois brave et droit pour être aimé de Dieu. Dis toujours la vérité, même si cela doit te coûter la vie. Sauvegarde les faibles. Tel est ton serment. Et ceci pour ne pas l'oublier. Debout, chevalier ! Debout, chevalier !
L'idéal chevaleresque, l'idéal d'honneur, ça c'est le premier idéal. Et l'autre idéal, Michel Zinc, le voici.
Le pénitent se montre humble devant Dieu. Le pénitent est humble. Il s'agenouille devant Dieu.
Celui du christianisme de l'humilité. Tout votre livre repose sur cette dualité qui n'arrive pas à s'accorder. De ce que là, j'ai bon.
Oui, vous avez bon, oui. Et j'en parle parce que il me semble que le fait que nous prenions systématiquement le parti de l'humilié, que nous identifions naturellement à l'humilié, c'est un héritage médiéval. L'antiquité classique n'admire pas l'humilité. Les mots qui signifient humble, humilis, au ras du sol, en latin ou en grec, c'est tapeinos, ne sont jamais pris en bonne part dans l'antiquité classique. Mais l'humilité devient une vertu dans le christianisme et le Christ est humble en prenant la condition humaine, alors qu'il est Dieu, c'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Philippiens, et il pousse l'humilité jusqu'à l'humiliation de la mort sur la croix. Et le Moyen-Âge vit avec cette idée qu'il y a ce modèle christique de s'abaisser et d'accepter l'humiliation. Et il accepte d'autant plus, tout cela c'est lié, que pour le christianisme, les valeurs du monde, celles qui procurent la puissance, la gloire, l'argent, etc., sont mauvaises, sont tentatrices. Et que il faut, comme il dit, suivre nu le Christ nu et pratiquer le dépouillement et la pauvreté. Et dans ce cas-là, le monde se moque de vous.
En tout cas, c'est la littérature qui semble résoudre cette contradiction entre l'idéal chevaleresque et l'idéal chrétien. Au Moyen-Âge, vous dites, on invente des récits où il y a une certaine noblesse à être rabaissée. Est-ce que, par exemple, le cas de Lancelot et Guenièvre, est-ce que c'est ça? Parce qu'il va affronter les pires épreuves pour elle, il va se mettre plus bas que terre. D'ailleurs, quand il y arrive, elle lui tourne le dos.
Exactement,
notez bien,
oui.
Hein, ça fait plaisir.
Mais elle, c'est exactement cela. Mais en fait, je me suis beaucoup fondé sur la littérature, d'abord parce que c'est ce que je connais, mais surtout parce que l'humiliation n'a pas de réalité objective. L'humiliation est dans l'idée qu'on s'en fait, est dans le regard qu'on porte sur elle. On est humilié par le regard de l'autre. Ce qui est considéré comme humiliant varie d'une époque à l'autre, d'une civilisation à l'autre. De sorte que on perçoit l'humiliation beaucoup à travers des textes littéraires qui sont des récits d'humiliation ou à travers des poèmes qui sont des aveux d'humiliation. Il y a forcément un jeu du regard et un jeu de la subjectivité dans l'humiliation.
Vous dites que la littérature du Moyen-Âge, je vous cite, « accepter l'humiliation est la plus grande preuve d'amour ». Et c'est comme ça que réagit Lancelot.
C'est comme ça que... Oui, voilà. Parce que, justement, l'humiliation est ce qu'il y a de pire. C'est ce qui m'exclut de la société. C'est la menace la plus grave. C'est le déshonneur pour un chevalier et donc ce qu'il craint plus que la mort. Et dans le cas de Lancelot, donc le nain dit à Lancelot qu'il ne retrouvera la reine que s'il accepte de monter dans la charrette. Et Chrétien de Troyes, l'auteur du Chevalier de la Charrette, explique que autrefois, à l'époque de Lancelot, les charrettes ne servaient qu'à transporter les condamnés. Ce qui est absolument faux, naturellement. On transportait aussi autre chose dans les charrettes, forcément. Il fallait bien que ça serve à quelque chose. Mais il veut emblématiser la charrette comme signe de honte. Et Lancelot veut retrouver Guenièvre et la délivrer. Elle est prisonnière. Et en même temps, il se dit, le temps de faire trois pas à côté de la charrette. Si je monte dans la charrette, je me déshonore. À ce moment-là, il ne voudra plus de moi. Donc je n'aurai rien gagné. Et Amour lui dit, oui, mais ce n'est pas pour toi que tu le fais, c'est pour elle, et tu dois accepter cette humiliation et ce déshonneur, même si ensuite elle ne veut plus de toi, par amour pour elle. Et en fait, quand il la retrouve, elle lui tourne le dos, non pas parce qu'il s'est déshonoré en montant dans la charrette, mais parce qu'il a hésité le temps de faire trois pas avant de se déshonorer pour
il
elle.
Il a hésité trois secondes et ça lui vaut le dos de Guenièvre alors qu'il a enduré.
Enfin, le dos de Guenièvre, ensuite, bon,
oui,
ça se termine bien à cet égard.
Le dos un peu dénudé.
Peut-être pas moral. Oui, enfin, ouais. Non, on se rend compte. Bref, passons. Ça se termine bien.
En tout cas, nous sommes demandé, Michel Zinc, ce que Lancelot et tous les amoureux humiliés d'ailleurs auraient pu écouter comme musique, hormis bien sûr quelques accords de flûte et de vielle. Eh bien, on a trouvé. C'est L'encre de tes yeux de Francis Cabrel, le troubadour du 21e siècle.
Voilà,
c'est fait pour vous.
Michel. Et voilà, et la langue d'oc, enfin, ou le pays d'oc, au moins, très bien.
Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. C'est ton sourire qui me l'a dicté. Jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout. ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux.
La Muse Bouche sur France Inter.
Michel Zinc est avec nous jusqu'à 20h pour son essai « L'humiliation, le Moyen-Âge et nous ». Alors, il y a une autre catégorie d'humiliés très particulier, Michel Zinc, et qui s'en sort plutôt bien.
Laissez-moi présider cette fête des fous, comme on en fait chez nous, l'on sait s'amuser. La fête des fous, la fête des fous.
C'est le fou. Et ça, c'est un extrait de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Ouais. Petit appel du cœur pour vous, Michel Zinc. Voilà. Vous écrivez « L'humiliation du fou appelle la compassion ». Pourquoi ?
Oui, alors, parce que le fou, d'abord, n'est pas conscient de lui-même. Donc, il est humilié, mais cette humiliation, il ne la ressent pas toujours. Et du coup, si on décrit dans ces romans, dans ces poèmes dont je parle, l'humiliation du fou, c'est pour émouvoir le lecteur par l'innocence du fou. On dit un innocent, et cet innocent est poursuivi par les quolibets et les mauvais traitements. Quolibets et mauvais traitements, et ça s'arrête là. On ne faisait pas vraiment de mal au fou. On ne le blessait pas gravement, on le tuait encore moins. On lui courait après, en se moquant de lui, et en lui jetant, c'était traditionnel, de vieilles savates, du mou, de veau ou d'autre chose, du poumon, disent les textes, et en le frappant avec des linges mouillés. Mais en réalité, ça ne l'est pas, parce qu'il y a deux types de fous dans cette littérature. Il y a les fous d'amour, qui deviennent fous à la suite d'un chagrin d'amour. Et à ce moment-là, on les montre subissant ces humiliations, eux qui sont souvent des chevaliers parfaits, etc., sous les yeux de celle pour laquelle ils ont perdu l'esprit. Et donc c'est pour elle une souffrance intolérable de voir l'humiliation subie pour elle. Mais il y a une autre catégorie de fous. Ce sont les fous de Dieu. Ce sont ceux qui choisissent cette voie de la pauvreté évangélique, du dépouillement, du renversement des valeurs, comme dit Bernard de Clairvaux, qui dit « Nous sommes comme des jongleurs qui font le poirier, qui marchent sur les mains et dont on se moque parce que nos valeurs sont à l'inverse de celles du monde. » Et le vrai fou est décrit dans d'autres poèmes, et on décrit exactement comme l'autre. Tous les fous sont décrits de la même façon, que ce soit de vrais fous qui ont perdu l'esprit ou ceux qui jouent aux fous par humilité et pour attirer les humiliations. Mais ceux qui jouent aux fous sont tout de même de vrais fous. Ce sont de vrais faux fous, de faux vrais fous, parce que c'est pourtant vrai qu'ils choisissent cela pour l'amour de Dieu, qu'ils refusent ce que tout le monde recherche, la considération, l'aisance, l'honneur. Et il y a une leçon constamment répétée sur cette folie acceptée et ces humiliations acceptées du fou de Dieu, alors que tous ces fous sont décrits exactement de la même façon. Les scènes sont très frappantes, mais très stéréotypées en même temps. C'est toujours la même chose.
Vous parliez de ceux qui faisaient semblant d'être fous. Il y en a un moment qui se déguise en fou, qui se laisse humilier, mais c'est une ruse. C'est dans Tristan et Iseut.
Ah, voilà.
Voilà. Et Tristan se déguise en lépreux, accepte les quolibets, sauve Iseut.
Il ne doit pas être lépreux, sinon on ne lui confierait pas Iseut. Il se déguise en mendiant. Au Malpas, c'est un marais. Iseut a dit qu'elle prêterait serment de son innocence, qu'elle ne peut pas faire, naturellement. Mais au-delà de ce marais, et elle a dit à Tristan de se poster à l'entrée du marais, elle demande que le mendiant la porte à califourchon sur son dos, et ensuite elle peut jurer qu'aucun homme n'a jamais été entre ses cuisses, sinon le roi Marc et le mendiant qui l'a porté,
qui tout
le monde a vu.
Qui est son amant. Voilà. Donc quand l'humiliation amène
mais
une
ruse. Mais alors ça, c'est pas de la folie au contraire. Mais dans les poèmes dits de la folie Tristan, il y en a deux versions. Tristan, qui a rendu Iseut au roi Marc, se déguise en fou, arrive au château de Tintagel, est traité comme un fou, on se moque de lui, on l'amène devant le roi Marc, qui se moque aussi de lui, et l'utilise provisoirement comme une sorte de bouffon, comme une sorte de fou du roi. Et jouant le rôle du fou, Tristan raconte toutes sortes de sottises.
Qu'elle reconnaît.
D'absurdités, mais au lieu de ces absurdités, des détails qui montrent à Iseut que c'est lui, Tristan, des détails qu'elle est seule à connaître.
En tout cas, vous dites quand même, Michel Zinc, que dans les pastourelles médiévales, qui sont des poèmes chantés, l'humiliation n'est jamais très loin de l'érotisme.
Oui, ah ben je crois que l'humiliation, d'abord, a à voir avec la sexualité. Que l'humiliation est une forme de viol. Ça, j'en suis persuadé. D'abord, quand on est humilié, c'est quelque chose qu'on ressent dans le ventre. Et alors, dans le cas de la pastourelle, ce sont des poèmes de séduction. Un chevalier, un monsieur à cheval, rencontre une bergère et lui fait des propositions, et ça se termine de différentes façons. Alors, donc, le poème, ce sont des poèmes, quelquefois grivois, souvent un peu coquins, mais ce qui a à voir avec l'humiliation, c'est que les deux personnages s'humilient mutuellement. Le chevalier prend de haut la bergère et quelquefois essaye de la violer, quelquefois la viole. Mais en même temps, il est ridiculisé, d'abord parce que souvent les bergers arrivent et le mettent en fuite, et il est ridiculisé par la bergère elle-même. Lui se moque d'elle en lui parlant comme si elle était une grande dame, avec un vocabulaire raffiné qu'elle ne peut pas comprendre. Et elle accentue son côté rustique. Elle dit, moi je comprends pas, mais qu'est-ce que vous faites là? Et elle le place dans cette situation d'infériorité qu'on a lorsque on est en face de quelqu'un qu'on considère au fond comme son inférieur, mais qui refuse de vous considérer comme un supérieur et qui ne voit pas en quoi on est mieux que lui. Le paysan médiéval est enfermé dans son monde et souvent il ridiculise le chevalier par son enfermement même, par cette infériorité dont il fait une supériorité. Mais c'est une expérience qu'on fait encore aujourd'hui assez souvent.
Il est temps de nous livrer vos recoins à vous, Michel Zinc, vos petits angles d'ombre, vos petites ficelles d'écriture.
Oh,
et vous pouvez, parce que c'est l'heure du procès-verbal. Votre nom.
Oui, vous avez plaisanté sur mon nom, ce qui est très humiliant. Enfin bon.
Non.
D'abord, il faudrait le prononcer Tsink.
Oh, c'est très classieux. Tsink. Votre prénom.
Mon prénom est Michel.
Vous écrivez assis, couché ou debout?
Quelquefois couché, mon ordinateur sur les genoux, mais généralement assis à ma table. Voilà.
Donc c'est plutôt sur ordinateur que sur papier?
Oui.
Parfois au café ou le plus souvent chez vous?
Le plus souvent chez moi, quand je me lance dans de l'écriture vraiment littéraire, il m'est déjà arrivé d'écrire au café, etc. Non, j'avoue, je suis conventionnel, j'écris chez moi.
Vous écrivez plutôt le soir, le matin, avez-vous une heure?
Le matin.
Quand vous levez la tête de votre bureau, que voyez-vous?
Chez moi, si j'écris dans mon bureau officiel, je vois en levant la tête le Pont des Arts et le Louvre.
Le téléphone sonne, est-ce que vous décrochez?
Oui.
Vous êtes d'une humeur de dog ou vous êtes plutôt poli? La politesse résiste.
Je suis poli, je suis toujours poli au téléphone.
Vous êtes libéré de ce procès-verbal. Merci Michel Zinc. Fait-on ça avec quelque chose de terriblement moderne, c'est-à-dire qui a dépassé le XIIIe siècle? Par exemple, Daft Punk et The Weeknd Feat. C'est très médiéval, vous allez voir, très médiéval.
Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
Vous écoutez la Muse-Bouche sur France Inter avec Michel Zinc pour son essai L'humiliation, le Moyen-Âge et nous. Alors, j'ai annoncé en musique Daft Punk and the Weeknd Feat, ce qui a mis en joie la régie. Évidemment, c'est pas du tout Feat ou Fête ou je sais pas trop quoi. Bref, c'était Daft Punk et The Weeknd. Alors, en tout cas, moi j'en connais Michel Zinc qui se tiennent droit dans la bataille, comme moi, alors que je viens d'être un peu humiliée. Mais enfin, debout toujours, même défiée par Amazon, même menacée par la Fnac, ils ont l'estime de leur métier en guise de bannière. Ce sont les libraires. Et figurez-vous, je ne sais pas pourquoi, c'est très bizarre, ils nous téléphonent. C'est toujours la même heure et le même jour. Oh ! Oh, oh ! C'est un olifant, c'est une sonnerie. Allô ?
Bonsoir Clara, c'est Gabriel, j'appelle pour l'apéro.
Oh mais Gabriel, mais je vois un écu de gueule au lion d'argent, au chef cousu d'azur à trois fleurs d'or, diantre, ne serait-ce pas le blason de la ville de Lyon ? La devise, Michel.
La devise de Lyon, bonsoir, est avant, Lyon le meilleur.
Oh, Sir Gabriel, Flieger de la librairie, vivement dimanche à Lyon, est-ce vous ?
Tout à fait, bonsoir.
Bonsoir. Alors, Seigneur Gabriel de Lyon, quelle est la situation la plus farfelue vécue dans votre échoppe ?
Alors, il y en a eu beaucoup, mais on peut faire confiance à l'imagination débridée de nos chers élèves, et notamment sur un livre qui est un classique du Moyen-Âge, qui ne déplaira pas peut-être à Michel V. C'était donc un élève qui venait pour chercher un livre, et il nous a demandé si nous avions en rayon Christian et Zeus en classique à pied.
À la place
et
de quoi ?
Fait, après un moment de stupéfaction, j'ai compris qu'il cherchait Tristan et Iseux en classique athée.
Oh, voilà. Oui, alors c'est confirmé, les jeunes fument. Voilà, ça c'est dit. Ça. Alors, Gabriel, quel ouvrage conseilleriez-vous à Michel Zinc, qui est notre invité à l'Amuse-Bouche ?
Alors en fait, comme vous avez beaucoup parlé de l'humiliation dans les sociétés anciennes, j'avais envie de parler, moi, d'un auteur contemporain dont je trouve la lecture extrêmement salutaire. Un auteur un peu injustement oublié, qui s'appelle Albert Kosri, qui était un auteur égyptien de langue française et qui a toujours dépeint les laissés pour compte de la ville du Caire, des gens qui sont mis à l'écart de la société, qui ont été souvent humiliés et méprisés. Et il nous les décrit avec beaucoup de compassion, mais parfois aussi beaucoup de férocité. En fait, c'est l'alliance des deux qui est assez intéressante. Et il nous montre surtout la puissance de ceux qui n'ont rien à perdre, justement, face aux gens plutôt nantis, qui, eux, ont tout à perdre. Et donc, il a une façon de nous parler d'eux, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'ironie.
C'est merveilleux, Albert Kosri.
En mettant ses personnages en scène dans des situations absurdes. Et qui fait que son rire permet vraiment de résister à tout.
Michel Zinc, est-ce que vous connaissez Albert Kosri ?
Ben non, donc je suis humilié, dont deux, je remercie beaucoup monsieur de me la conseiller cette lecture, je vais me précipiter là-dessus.
Vous lui redonnez le conseil de lecture, Gabriel ?
En pensant à lui.
Oui, bien sûr, j'ai pas dit merci, le titre en fait, alors Gabriel. Tous les livres d'Albert Kosri se ressemblent un petit peu, mais son chef-d'œuvre c'est peut-être Mendiants et Orgueilleux.
Ah, mais c'est lui, oui, Mendiants et Orgueilleux.
Mendiants et Orgueilleux. Oui, oui. Aux éditions, c'est Joël Losfeld.
Tout à fait. On surnommait Kosri le Voltaire du Nil. Il disait qu'il écrivait lui-même pour que celui qui l'ait lu n'aille pas travailler le lendemain.
Merci Duc Gabriel Flieger de la librairie Vivement Dimanche à Lyon. Et puis merci au magazine Page, fidèle compagnon de la Muse-Bouche, qui regroupe la crème des libraires de France. Et d'ailleurs, Page vient de s'associer à la création d'un portail tout neuf nommé librairieindépendante.com au pluriel. Ce portail fédère les sites de libraires et propose à partir d'une seule adresse l'accès au stock de 700 libraires, soit 4 millions d'ouvrages. Donc on salue ces guerriers du livre qui portent haut les couleurs de l'indépendance. Et Gabriel, de votre côté, on vous attend pour l'apéro, pour une coupe d'Hippocras. Prenez votre destrier, galopez vers nous, Gabriel, on vous attend.
Merci beaucoup.
C'est l'heure des inavouables, Michel Zinc. Oh. Oui, parce qu'attendez, on a beau être le roi des humiliés, on n'en est pas moins homme, donc faillible. Oui. Alors y a-t-il une chanson, un film, catalogué un peu ringard, un peu kitsch, mais que vous aimez néanmoins ?
J'ai un faible pour les poètes idiots d'époque 1900. Georges Fourest, j'adore Georges Fourest.
Est-ce que c'est pas lui qui aurait fait les petits lapons ?
Dans leur cahute enfumée, bien soigneusement fermée, les braves petits lapons boivent l'huile de poisson. Dehors, on entend le vent pleurer, les méchants ours blancs grondent en grinçant des dents, et depuis longtemps, la mort, le pâle soleil du Nord-Mais.
Vous êtes bien sur France Inter, si les auditeurs attrapent à ce moment-là, c'est bien France Inter. Donc.
Alors c'est culturel, Georges Fourest, puisqu'il a écrit comme des réécritures des pièces classiques. Tout le monde connaît qu'il est le joli garçon, l'assassin de papa, dans sa réécriture du Cid.
Ah oui, non, moi je ne connaissais pas, mais moi, j'ai découvert grâce à vous.
Le héros, le drapé dans sa capa, le héros meurtrier à Palans se promène. Dieu murmura par soi la plaintive chimène, qu'il est le joli garçon, l'assassin de papa. Et j'aime les chansons 1900 idiotes aussi. Enfin, vous me direz que j'ai l'esprit mal tourné, mais enfin, ça vous arrive aussi. J'aime la jeune fille dans le métro. Mais là aussi, c'est culturel parce que ça joue sur les rimes. Enfin, on attend une rime qui donnerait un sens inconvenant et il vient un mot qui ne rime pas avec le vers précédent, mais avec le vers suivant, et qui donne un sens convenable. C'est une merveille poétique.
Renaud a repris La jeune fille du métro, c'était en 1981.
Ah, bah alors, c'est Renaud l'a repris.
Qui date de 1472, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, pendant Jésus-Christ, qui s'appelle La jeune fille du métro. C'était une jeune fille simple et bonne, qui ne demandait rien à personne. Un soir dans le métro, il y avait presse, un jeune homme aux âges, je le confesse, lui passait la main sur les cheveux comme elle était gentille et s'approcha.
Voilà, ça, je vois que ça vous met en joie,
bah oui.
Michel. Est-ce qu'il y a un classique qui vous tombe des mains, un grand chef-d'œuvre, et vous n'y arrivez pas?
Eh bien, enfin... J'y arrive, mais je ne peux pas dire que j'aime beaucoup. Et j'ose pas le dire parce que c'est un auteur vraiment universellement admiré et respecté, c'est Rabelais.
Et vous n'aimez pas Rabelais ?
Ben, j'aime pas Rabelais. C'est-à-dire que, bon, je reconnais que c'est un grand esprit, que ses idées sont excellentes, que c'est une mine pour l'historien, pour l'anthropologue, pour la connaissance à la fois de la pensée et de la culture populaire, mais il me fait l'effet de ce qu'il dénonce. C'est-à-dire que quand je le lis, j'ai l'impression de lire un vieux prof qui, de temps en temps, est salace pour être amusant et il ne m'amuse pas beaucoup.
Ouh, et ben écoutez, c'est sur ces mots définitifs que nous rangeons les amuse-bouches pour passer à table notre dernier dîner ensemble. L'humiliation, le Moyen-Âge et nous de Michel Zinc est paru chez Albin Michel. La semaine prochaine, on ne reçoit personne puisque ce sera la grille d'été. N'oubliez pas d'embarquer des bons livres avec vous. L'amuse-bouche est un grand banquet qui dure depuis presque un an avec en troubadour superstars Marie-Annick Rimbaud et Claire-Sophie Collet, Thierry Dupin pour les accords de Vielle et derrière la broche cette semaine qui nous régale Julien Dumont. Bonne semaine mes amis, restez amoureux de la littérature et puis du Moyen-Âge, vous resterez amoureux de la vie. Merci de nous avoir suivis chaque samedi, je vous fais ma révérence.